Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Et donc, oui, c'est ça, l'attitude méditative, si je le décris comme ça, c'est ce petit intérêt, ce léger intérêt qu'on a pour ce qui a lieu en ce moment. C'est ce qu'on va explorer, cultiver ici toute la semaine. Alors, ça, c'est que ça, en fait. Bon, puis on va essayer d'en parler, puis de s'approprier ça, là, de découvrir ce que ça veut dire pour nous. Là, je dis approprier dans le meilleur sens du terme. Il y en a plusieurs, mais d'aller voir pour soi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça, d'être au contact d'un phénomène? Donc, j'utilise ce mot phénomène pour pointer vers... oui, ce que je vais appeler cette semaine phénomène, c'est un événement. Une situation, une expérience qui se passe, disons, au présent. Définissons ça comme ça, au moment même. Alors, quelque chose, une expérience, elle peut être auditive. Elle peut être olfactive, elle peut être gustative, elle peut être tactile, elle peut être émotive, se passer dans l'esprit une pensée, une émotion, une humeur, etc. Et donc, un phénomène, c'est quelque chose qui a lieu en ce moment et qui peut être connu, qui peut être vécu directement. Et la méditation, pour nous, ça va être un peu ça, cette semaine. Permettre aux choses d'être ressenties ou éprouvées. Éprouver, c'est un bon terme, je pense. En conscience, avec lucidité. C'est incroyablement simple et pas facile. Et donc, cette exploration du présent, moi, comment je comprends, comment je conçois la retraite, c'est comme un laboratoire, comme un centre de recherche. Alors nous, on est venu dans le fameux centre de recherche Perchois, qui est Kala Chakra. Et dans ce centre de recherche, on mène une étude sur le moment présent. Et donc déjà là, il y a une forme de renoncement, une forme de simplification des choses, focalisation. Alors, on n'est pas tellement intéressé par le passé ou le futur. Et déjà, c'est radical, je trouve, parce qu'on peut très bien être assis ici. Moi, j'ai presque envie de dire, ça fait des années que je le fais. Assis ici et penser à plus tard ou jadis. Et là, nous, on essaye cette voie du milieu entre les extrêmes que sont le passé et le futur. On essaie de voir, est-ce que c'est possible d'être ici au contact? Oui, de vivre cette expérience. Alors, c'est le champ de notre exploration, c'est le présent. Et donc, si par exemple une mémoire arrive, ah mon Dieu, il s'est passé quelque chose avant que je vienne, juste avant que je vienne, il y a eu ce truc, c'est maudit ou entendu, juste avant que je vienne, et là, ça me pèse. Ben donc, l'étude, pour moi, ce n'est pas ce qui a été dit là-bas, mais ah, ici, voici une personne qui est perturbée par ce qui s'est passé avant le départ, ou dans les derniers mois. Et donc, on s'intéresse beaucoup à comment est la personne ici, comment est... Alors ça, c'est quelques mots un peu sur l'intention, peut-être, on pourrait appeler ça l'intention. La semaine dernière, dans une autre retraite, j'ai appelé ça la tâche. la tâche. Je ne sais pas, je me posais la question, mais pour quelqu'un, ça avait beaucoup résonné. Ah oui, j'ai adoré la tâche, la tâche. Puis moi, je me dis, ah, c'est délicat la tâche. Parce que, la... Alors que nous, c'est très... C'est... Oui, c'est ça, c'est délicat, en fait, ce qu'on fait. Hein. C'est comme si je nous invite, par exemple, à sentir nos pieds. Puis à sentir peut-être, je ne sais pas, nos épaules. C'est une tâche assez légère, hein. C'est pas... les sueurs et tout. On n'est pas, c'est pas comme si on devait... La tâche, c'est de pousser une voiture jusqu'au sommet d'une côte. Ou... Pourquoi une voiture? Sisyphe, lui. C'est une roche, non? Alors, c'est pas... La tâche, c'est, elle est très légère. Hein? C'est d'être au contact. Simplement d'être au contact de, du froid, si c'est ce qui est là, ou du pas, si c'est ce qui se passe, ou d'une inspiration. Il y a trois choses que je veux nommer ce matin. Disons l'intention ou la tâche. Choisissez votre vocable. Ça, c'est une chose. Donc, c'est ce qu'on appelle sati. Hein, la... Traduit parfois ou très souvent par pleine conscience. Dans un autre monde où j'évolue un petit peu, là, quelques jours par année, ils appellent ça la présence attentive. C'est comme ça qu'ils traduisent ce terme sati. Je ne sais pas s'ils trouvent que c'est trop arrogant, la pleine conscience. C'est un peu fort quand même. Un petit peu plus pleine conscience. Déjà, ça peut aider. Alors, une présence attentive. Alors, ça, c'est l'intention. Après ça, un autre élément important de ce qui se passe ici, ou de la pratique, c'est la compréhension juste. Alors, il y a la tâche ou intention, puis il y a la compréhension juste. Alors, je vais lancer un petit quelque chose, peut-être ça va résonner ou pas. Puis en même temps, je partage là, les éléments de ma pratique personnelle. Moi, c'est ça. Il y a certains éléments qui apparaissent, puis je peux travailler avec ça pendant 4 ou 5 ans. Là, ça va être assez de matière pour m'occuper dans ma recherche. Alors, ces éléments-là, pour moi, ces trois éléments que je vais nommer ce matin, me semblent essentiels. Alors, la tâche qui est très, très simple, être au contact. Être au contact du corps, de l'environnement, du silence, de l'émotion, l'humeur qui nous habite, être au contact de quelque chose qui a lieu au présent. Après, la compréhension juste. Waouh! Je dois avouer, un des trois je préfère, c'est celui-ci, la compréhension juste. Ou la vision, ça pourrait être un autre terme qu'on pourrait utiliser. Ça me semble très important, puis ça parle beaucoup, beaucoup de la sagesse, de vers quoi on va. Et, ouais. Alors, la compréhension juste, donc je vais mettre dans ces mots-là, pour moi, au moment de pratiquer, au moment de commencer une retraite, au moment de m'asseoir pour quelques minutes dans une pratique plus formelle, la compréhension juste, c'est que ce qui va être rencontré, ce qui va être révélé, ce qui va être connu, ce dont... oui, c'est ça. C'est de la nature humaine. Alors, c'est un petit peu plus large que je. Ma respiration, mon corps, ma douleur, moi en retraite, moi sur le coussin ou la chaise. Tout aussi bien, il n'y a pas de différence. Mais, donc, me suivez-vous un petit peu? Ce qu'on découvre ici, c'est ça qui est fantastique. Puis la sagesse, ça va être beaucoup cette ouverture-là, que ça réfère un peu moins à un certain « je » qui serait central à toute l'histoire constamment. Puis plus cette chance, là, dans ce laboratoire, ce centre d'études, de venir découvrir la nature humaine, la nature de l'irritation, la nature de la joie, la nature du calme, la nature du picotement, la nature d'être incarné là, dans un monde physique, là où il y a le chaud, le froid, le dur, le mou, le rugueux, le souple, etc. La nature de, ouais, de ce que c'est que d'être avec dans un corps qui a des organes, des tendons, des muscles, des os, des hormones, tout le... The full catastrophe, comme disent certains. Et donc, cette façon-là d'avoir, en passant par à la première personne, en étudiant ce qu'il y a localement, ce qu'on trouve, les produits locaux, disons, en passant par les produits locaux, de découvrir ce qui se passe chez un être humain, puisque tout ce dont on va faire l'expérience fait partie du domaine public. Hein? Donc, c'est ça, la joie, la confusion, la clarté, la légèreté, la lourdeur, le désespoir, le découragement, l'arrogance, l'ambivalence, la beauté, le spacieux, le contracté, tous ces différents phénomènes avaient lieu avant nous. Comment? Je pensais que tout partait de moi et retournait vers moi. Mais non. Même il y a 2600 ans, ces choses-là étaient connues. Ce qu'on va rencontrer, là, le mouvement, la rigidité, l'obsession, le lâcher-prise, la bienveillance, toutes ces choses-là sont des phénomènes humains, en tout cas on pourrait dire certainement, de la nature humaine. Et donc, ça c'est la compréhension juste. Donc j'ai nommé deux choses. Une, c'est la tâche, être au contact. De quoi? De la nature humaine, de la nature de l'inconfort, du confort, du bien-être, du mal-être. Puis la dernière chose, presque rien, ce serait, peut-être on pourrait appeler ça l'attitude. Alors il y a plusieurs options aussi de l'attitude. Ça peut être à nous de choisir. Ça pourrait être jugeant, une attitude jugeante. Hein? On pourrait avoir ça comme attitude, c'est une des options. Il y en a d'autres. Une attitude, ça pourrait être jugeante envers soi, envers les autres, envers tout ce qui se passe. Le centre, l'horaire, le prof. c'est ouvert, là. On peut avoir cette attitude jugeante. Ça, c'est une option. Des fois, ça n'en est pas une, en fait. On voudrait que ce soit une option, mais ça n'en est pas une. Mais une autre, peut-être, possibilité, parfois, une option, c'est peut-être la bienveillance. Alors, une attitude possible, c'est amicale. Alors, on peut jouer avec ça, découvrir un peu quelle est l'attitude en ce moment. Parfois, c'est possible de réorienter un peu, inviter un peu de douceur. L'attitude, ça peut être en forçant, ce qui souvent devient épuisant assez vite. Et donc, oui, ce que j'aimerais proposer, là, ce serait cette attitude peut-être bienveillante, puis trouver, là, dans ces trois aspects-là de la pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Là, pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant. Là. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être au contact? Pascal et d'autres, évidemment, là, mais Pascal, aujourd'hui, utilise ce langage-là. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'action? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire là, ici, dans cet état-ci, ou plus tard, dans la salle à manger, ou dans la chambre, ou à l'extérieur, ou quand je me sens bien au chaud, ou que, oups, là, il me manque une petite couche. Mérino, où es-tu? Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'être au contact, pour moi, en ce moment? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est pas si personnel, peut-être plus large. Puis Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité autour de l'attitude? Alors, je commencerai avec ça un peu ce matin. Bon, c'est trois choses. Si on en oublie deux, je trouve que c'est parfait. Si on oublie tout aussi, c'est pas grave, on va retomber sur autre chose, il y a autre chose qui va apparaître. Mais si on garde un élément, peut-être, qui revient même juste à certains moments, c'est super. Ce qui m'amène à dire, tiens, qu'il me semble important de dire aussi, puis ça fait partie justement d'attitude, compréhension juste, que c'est ce qui va se passer ici cette semaine va avoir dans sa nature d'être légèrement bancal, imparfait. Alors, ça s'applique à nous-mêmes comme retraitants, retraitantes. Alors, des fois, on voudrait, là, parce que les images sont tellement fortes et il y en a tellement. Ça peut être à la fois inspirant et oppressant, ou l'un ou l'autre, mais il y a comme quelque chose de parfait là, qui semble parfaitement éveillé, parfaitement assis, parfaitement centré. Puis pour nous, ça va être un petit peu plus bancal. La concentration, le ci, le ça. Hein? Et c'est ça, donc, peut-être faire attention à ça, là, cette recherche de la perfection. C'est pas exactement comme ça. Sur le chemin, hein, c'est un petit peu plus... Ça avance, mais... c'est pas... C'est ça, c'est bancal, un peu. Et donc, ça va être comme ça. Le centre, ce qu'offre le centre, va être légèrement bancal. Ce que nous, on offre comme pratique, ça va être légèrement bancal. Ce que moi, je vais offrir comme enseignement... Ça, je peux vous le garantir. Ça va l'être. Et, ouais, comme ça. Alors, ça va être imparfait. Et l'idée, c'est de faire du mieux qu'on peut à chaque moment. Juste le mieux, c'est suffisant. Donc... Moi, j'ai beaucoup de gratitude envers mes enseignantes et enseignants parce que j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps auprès d'eux. Et quelqu'un me disait récemment, où j'ai lu ça, quelqu'un disait qu'un proverbe, peut-être chinois, dit « Ne rencontrez jamais vos héros ». Alors moi, j'ai eu la chance de les rencontrer et ça remet les choses en place, les projections. On voit que c'est des êtres humains, tout ça. Mais c'est libérateur. Hein? C'est décevant au début. Puis après, c'est libérateur. C'est empuissant après. C'est empowering. Parce qu'on se dit, ah, OK. Ah, Jack. Etc. Remplacer Jack par John, c'est pas grave. Ou n'importe quel autre. Mec blanc sur qui vous projetez la perfection. Et oui, c'est très beau parce qu'on voit que c'est des gens qui ont beaucoup de sagesse, tout ça. Et oui, ça reste un petit quelque chose d'imparfait, de bancal, et qu'on peut très bien avancer sur le chemin avec, avec ces personnalités-là, là, puis ces choses-là qui nous habitent. OK? On joue un petit peu avec ça? Bon, je dis le mot « joue »,« jouer », parce que ça me semble être une belle attitude, une belle approche, mais je suis aussi conscient que des fois, on ne joue pas. Non, Pascal, là, je ne suis pas dans le jeu du tout. Là. Moi, j'essaie juste de survivre à tout ce qui traverse mon corps, mon cœur, mon esprit. Alors oui, c'est ça. Je ne voudrais pas imposer le jeu, mais ça peut être une belle approche quand c'est disponible, plutôt que de penser là, d'être trop sérieux à propos de ce qui se passe, là. On risque de devenir tendu, ça ne sera peut-être pas aidant. Alors nous, ben, le jeu est possible, entre autres, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'heures. On a beaucoup, beaucoup d'heures pour explorer les choses. On est en dehors du temps même. Puis si on se fie à la cosmologie bouddhique, puisque les pratiques qu'on fait sont des pratiques bouddhiques, ça, je ne sais pas, je ne peux pas me... Mais dans la cosmologie, dans la compréhension bouddhique des choses, il y a plusieurs vies. Alors, ça peut aider à se détendre encore plus. On se dit, ah, mon Dieu, OK. Je risque d'avoir plusieurs chances, là. Puis, donc, ça va. OK, alors, je vous invite à trouver votre posture ou une posture qui pourrait aller. Plus tard dans la matinée, je parlerai peut-être de posture à Seuse, que ça intéressera. Mais pour le moment, encore toujours possible de se mettre debout. Puis il reste quelques chaises aussi. Plusieurs d'entre nous n'ont pas grandi au sol. Hein? C'est peut-être beaucoup exigé là, de pratiquer au sol. En tout cas, on peut certainement alterner. C'est absolument OK de passer toute la retraite sur une chaise. Excellent. D'ailleurs, plus les gens deviennent sages, ce que je remarque, je ne sais pas si je fais mal le cause à effet, mais je vois les enseignants seniors, là, je les vois tous, ils finissent, plus ils sont sages, plus ils montent. Alors, Joseph, maintenant, est sur une chaise. Tout le monde finit par monter à un certain moment. Donc, je ne sais pas si c'est ça le lien. Là. Plus il y a de sagesse, moins on a besoin d'être au sol. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être l'âge, je ne sais pas. Je ne comprends pas exactement. Mais je vois que tout le monde monte. Et donc, encore une fois, je le répète, juste pour clarifier les choses, on ne sait pas d'atteindre quelque chose ou de produire quelque chose. On est invité peut-être à découvrir le familier. C'est familier pour nous d'être dans un corps ou d'être assis ou debout. C'est familier de respirer ou d'entendre. Faire l'expérience de la luminosité, toutes ces choses familières, de vivre des émotions, c'est familier. Et là, il y a cette invitation à découvrir ou redécouvrir le familier. Ce que c'est que de respirer. Ça peut se faire les yeux ouverts ou fermés. Si on repasse un peu par le chemin que j'ai proposé hier soir, je pense que c'était de découvrir un peu l'environnement. Découvrir l'environnement, la lumière à cette heure-ci, très différente d'hier soir. On peut découvrir un peu l'espace, même à travers l'audition. Découvrir, redécouvrir la gravité. Découvrir la sensibilité du corps, toute la sensibilité du corps, la sensibilité au chaud, au froid. des vêtements. Découvrir la sensibilité du corps à ses propres mouvements. Ceux de la respiration, entre autres. Et ce qu'il y a de plus familier, peut-être, et de moins découvert que tout, c'est le fait d'être consciente, conscient. On découvre ce que c'est que d'être un être sensible. Conscient, pendant que ça a lieu. Consent à éprouver le monde. Et c'est très, très, très naturel pour cette présence méditative ou cette présence attentive d'être vacillante, fugace, évanescente, intermittente, très naturelle. Alors la présence devient absence. Ben oui. Puis un moment d'éveil. Ah! Retraite, pratique de la méditation. Ici, il y a quelque chose qui s'éveille à nouveau. Perd la fascination pour ce qui est raconté. Et le contact est établi à nouveau avec le corps, l'environnement, le cœur. Cette découverte à nouveau là, de ce que c'est que d'être l'être vivant pendant que ça a lieu. Ce que c'est que d'être sensible, d'être respirant, entendant. Merci. Alors, quand moi, je joins les mains comme ça à la fin de la méditation, c'est un geste de reconnaissance, de gratitude pour dire, ah, tiens, on a créé un espace de recherche comme ça, c'est précieux, c'est rare hein, sur la planète qu'il y a ces moments-là où un groupe s'arrête et prête attention. Ben, ça arrive régulièrement, mais habituellement, il y a un band qui joue devant, ou il y a un écran. Avec... et puis là, nous, ben, c'est très particulier, on s'arrête pour écouter, mais il n'y a pas de danse, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de rock. Il y a juste un groupe de personnes qui écoutent. Et donc ça, c'est très rare, puis il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Alors, quand je fais ça, c'est un peu c'est reconnaître là, que cet espace-là a été créé. Et vous avez peut-être votre raison à vous pour le faire, et c'est possible que ça ne vous intéresse pas de faire ça. C'est surtout pour ça que je dis ce que je dis là, c'est pour dire, ne vous sentez pas obligé, là, dehors, moi, tout le monde fait ça. C'est open. Faites comme vous voulez. Oui, donc cette étude du moment présent, c'est très expérientiel, hein, empirique. On est dans le vécu, là, dans le éprouvé. Donc on n'est pas dans le réfléchi, conçu, narré, décrit, analysé. On n'est pas là-dedans. C'est une autre région du cerveau, j'ai envie de dire. On est dans l'expérientiel. Et donc, entre autres, c'est pour ça que ce qui est suggéré dans les retraites, dans cette lignée-là, d'ailleurs, Theravada, un peu tel que pratiqué en Birmanie, en Thaïlande, au Sri Lanka, mais une version occidentale de ça, juste pour savoir là, où on se situe par rapport, par exemple, au bouddhisme tibétain, Mahayana, Vajrayana. Ici, c'est un peu différent, Theravada, auquel on peut adhérer ou pas, on n'essaie pas de faire des gens, des bouddhistes. En tout cas, ce n'est pas mon objectif, j'ai aucun intérêt pour ça. Très intéressé par la sagesse, par contre. Et donc, dans ces retraites, si, c'est souvent pour ça qu'on suggère, invite les gens à ne pas lire ou écrire. Je le dis particulièrement cette fois-ci, parce qu'il y a toute cette bibliothèque qu'on doit traverser à l'arrivée ou au départ. Et ça peut être très intriguant, mon Dieu, il y a des connaissances, il y a du savoir là-dedans, là, des pages pleines. Et nous, on va vers autre chose. On va vers quelque chose qui n'est pas conceptuel, qui est intuitif, une compréhension pénétrante, qui s'appelle vipassana, voir profondément, comprendre profondément. Et ça ne passe pas par des concepts, ça passe par une expérience vécue. Trois façons de comprendre les choses, des informations, on peut lire un livre, on peut réfléchir à quelque chose, on va un petit peu plus loin quand on y met un peu du sien, de ses références, de sa créativité, etc. On peut faire le tour de quelque chose encore plus. Et l'autre façon, c'est d'être au contact avec une présence accrue, de qualité, stable. Et nous, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc, il y a cette invitation à ne pas lire, ne pas écrire, pour demeurer dans le champ de recherche, là, qui est le moment présent. Donc, voyez comment vous pouvez vous engager autour de ça. Là. Et puis, des fois, on ne peut pas résister. Là. On peut peut-être, ah oui, je ne prendrai pas de livre, mais je vais certainement lire tout ce qui est écrit sur le sachet de thé. Avant de l'ouvrir, j'ai besoin de concept, j'ai besoin de... Alors, on peut voir ça, là, l'esprit assoiffé. On se met à lire toutes les affiches, les trucs. Alors, moi, je nous invite à simplifier à ce niveau-là. On reste très près de l'expérience immédiate. C'est notre champ de recherche. Et on le fait aussi dans ces trois façons. Il y a beaucoup de trois ce matin, là. Mais c'est une autre petite... liste là ici de. Alors, les pratiques ici, c'est l'assise. Et on peut très bien être debout, même on pourrait être couché s'il y a quelqu'un qui a une douleur chronique ou une blessure, il y a assez d'espace. Puis même, je voudrais ouvrir pour il y a des sofas qui sont tellement invitants, non? C'est très... Donc, ils vont peut-être le devenir de plus en plus, là. Et moi, je m'imagine très bien que quelqu'un puisse décider, non, c'est impossible, je ne peux pas retourner sur ce coussin, ben, de faire la pratique dans cette salle de méditation, mais de s'installer là, puis de voir, est-ce que c'est possible d'être en présence, c'est ça, soutenu de cette façon-là, très moelleuse. C'est une autre texture de l'expérience qui peut être connue. Alors, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est disponible. Si on se couche au sol aussi, c'est la même chose. Après, bon, le défi, c'est de se rappeler que nous, on pratique l'éveil, pas le sommeil. Et donc, ça peut demander un peu de clarification, là, d'exploration, mais ça reste... quelque chose qui est disponible, si ça peut être aidant. Et c'est ça, les trois façons de pratiquer, c'est donc cette assise ou être debout couché, mais quand on est un peu dans une posture plus stationnaire, on pourrait dire, ici dans cette pièce ensemble. Et même, je peux ouvrir encore plus large. J'imagine, là, il y a une série de méditation marché, méditation assise, méditation marché. Je peux très bien imaginer que dans certaines des méditations assises, à l'horaire, on décide, si le temps s'y prête, puis qu'on est bien emmitouflé, de pratiquer à l'extérieur, inspiré par le Bouddha lui-même, qui a pratiqué à l'extérieur. Alors, si vous décidez à un certain moment, « Ah tiens, il y a une assise, je vais aller me trouver un petit coin et je vais voir comment c'est quand je suis seul, comment c'est quand je suis... » au contact des éléments là, d'une façon un peu plus directe. Qu'est-ce qui va naître de cette pratique-là? Donc, stationnaire, peut-être assis. Pendant que ben, nous, on est ici, peut-être quelques personnes seront à quelque part d'autre. C'est bien ça quand on sait que toute la communauté pratique ensemble et que ouais, qu'on trouve la forme qui peut être soutenante. Moi, j'ai le goût de jouer un petit peu avec ça. La deuxième pratique, alors j'aurais pu la mettre en premier, ça aurait été bon. D'ailleurs, je la mets en premier pour défaire un peu la hiérarchie habituelle. Mais la deuxième pratique qu'on fait, c'est la marche. Je vais en parler là, quelques minutes. Puis la troisième, c'est tout le reste. Alors, ce qu'on appelle les activités quotidiennes. Alors, le repas, par exemple, c'est un excellent champ de pratique. Certains pensent à la salle à manger, le réfectoire, comme le paradis un peu. C'est le seul moment où il va y avoir un divertissement, etc. D'autres, c'est l'enfer. Hein, parce que voilà, les corps, la queue, il faut faire la queue. Après, le rapport à la nourriture, tout ça. C'est très... le silence dans la pièce. Alors, c'est un excellent champ de pratique pour toutes ces raisons-là. Le paradis ou enfer. C'est un beau champ où on peut amener de la présence à ce qui se passe. Ou dans la chambre, ou la salle de bain, quand on se déplace d'un lieu à un autre, autant dans le cadre de la retraite, là, autant d'opportunités de présence, opportunités pour développer une présence curieuse ou bienveillante, ou oui, stabiliser cette présence. Et donc, la marche méditative, ça commence par se mettre debout. Déjà, si on peut le faire en confiance, en conscience. Et oui, j'aime, moi, cet aspect radical d'utiliser tout ce qui se passe pour développer une présence, découvrir qu'est-ce que c'est que d'être présent. Donc, à ceci, se mettre debout. Aller rejoindre le lieu de pratique, marcher. Est-ce que ça peut être fait en conscience, avec lucidité? Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être pour moi, ça veut dire que je... En québécois, je dirais je ne suis pas en train de me dépêcher et surtout que je ne fais pas la chose pour qu'elle soit faite. Je fais la chose, me mettre debout pour être rendu debout, aller m'habiller pour être rendu dehors, etc. On peut vivre toute une vie comme ça, en faisant les choses pour qu'elles soient faites. Je sais pas. Hautement questionnable. Et ici, nous, l'angle est un peu différent. On fait les choses pour cultiver la présence. Alors, ah, tiens, faut, je me mets debout, pourquoi pas y être? Je me brosse les dents, pourquoi pas y être? Je ferme une porte, pourquoi pas y être? Il y a le froid, pourquoi pas le ressentir en conscience, etc. Puis, à un moment où on atteint un lieu de marche, ici, ben c'est beau. En plus, on a du soleil aujourd'hui, incroyable. Alors, si on a les bons vêtements, on peut faire la marche dehors. C'est l'idéal, je pense. Il y a aussi la Gompa de l'autre côté, là, de l'autre côté de la salle à manger. Il y a une porte qu'on peut ouvrir, puis un temple. Et on peut aller marcher là-dedans. Les règles du jeu, pour ça, je pense que ce qui serait bien, c'est si on va marcher là, si on entre, quelqu'un marche déjà, de marcher dans le même sens que la personne en parallèle, plutôt que... Alors, si on voit, tiens, la personne marche d'une fenêtre à l'autre, je vais marcher aussi dans ce sens-là, ou si elle marche vers le grand Bouddha, et c'est loin, je vais marcher dans ce sens-là. Ça peut être très bien de marcher à l'intérieur, ça développe la concentration, tout ça, mais à l'extérieur, c'est très bien. Alors, il y a ces possibilités-là. Et la marche, de façon classique, peut-être que on en reparlera, mais de façon classique, donc en Birmanie, en Thaïlande, entre autres, au Sri Lanka, ce sont des pratiques qui sont très, très riches, là. Et on peut facilement penser à c'est la pause entre les assises, mais... Ne pas s'y méprendre, c'est très, très riche en soi. Moi, j'adore la marche méditative. Alors, ça consiste en ceci. Plusieurs d'entre vous le connaissez. Alors, vous voyez, je pourrais avoir les mains dans les poches, les mains sur la poitrine, derrière le dos, le long du corps, comme je veux. Et l'idée, dans la marche traditionnelle, la façon traditionnelle de pratiquer la marche, c'est de faire quelques pas, peut-être 10, 15 pas, selon l'espace qu'on a, en présence. C'est tout. Alors, c'est une occasion d'y être, de découvrir ce que c'est que d'être vivant. La tâche, donc, être au contact. L'attitude, ben, ça pourrait être bienveillant, détendu. Alors, bon, je vais faire comme ça. Alors, juste quelques pas pour vivre l'expérience, soit du pas lui-même, c'est déjà beaucoup. Alors, cette expérience-là de marcher, donc découvrir le familier, c'est une belle définition de la pleine conscience, non? Découvrir le familier, j'adore. Ça me semble très, très, très juste. Découvrir le familier. Alors, juste quelques pas en présence, comme ça.
Hello.
Et je m'arrête. Conscience de l'arrêt, conscience de la vie dans le corps qui a arrêté, de l'équilibre, vivant, l'immobilité relative. Imagine ici, si je suis dehors, ben, je vais prendre le paysage, je vais être conscient de voir, peut-être de l'expérience de beauté, ou d'espace, ou de lumière. Alors, ça peut inclure tous les sens. Juste y être, vivre cette expérience-là, et se tourner en conscience. Tiens, le corps se tourne et y être. Alors là, l'air de rien, on travaille sur stabiliser une qualité de présence. Ça va être vraiment très aidant dans nos relations. Au travail. Et c'est absolument nécessaire pour la recherche spirituelle. Alors c'est ce qu'on fait, on stabilise la présence. Puis encore quelques pas. Et là, moi, je m'imagine sentir, ben, je le fais, sentir le corps, tout, ça peut être sentir tout le corps, ou sentir les jambes, ou sentir seulement les pieds, et l'arrêt encore. L'espace, je ne sais pas moi, la beauté, les sons, le froid, le vent sur le visage. Alors, c'est comme, on reçoit les impressions présentes. On se laisse seul. Et tout le renoncement et la simplicité, c'est qu'on évite, on abandonne cette tendance à construire. Oh mon Dieu, le perche, ceci, on est chanceux, hier il pleuvait, tempête, là, là, là. Il demande aujourd'hui, ça va se réchauffer. Alors toutes les constructions, tout ce qui est ajouté,
Bon, on arrive. Ça. Mais l'idée, c'est de renoncer à ça, d'abandonner ça. Ah non, je veux tous mes commentaires, préférences, projections, planifications. Puis nous, ben, c'est ça, on simplifie. Qu'est-ce que c'est juste de marcher et de vivre l'expérience? Et ben oui, il y a des choses qui vont se présenter à l'esprit, puis juste de reconnaître, ah oui, merci. Et qu'est-ce que c'est que de marcher, de vivre le froid ou la lumière? Alors l'expérience directe, c'est une sorte d'intimité avec les choses. Les êtres humains, souvent, ils voient quelque chose et ils partent dans un commentaire, une histoire, ou entendent quelque chose et partent dans un commentaire, une histoire, une mémoire. Puis nous, on essaie de voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce serait de demeurer au contact. Juste de demeurer là. Puis voyons voir ce qui va arriver.
Et il y a un moment où la fée clochette, où les gogneurs, gogneuses, ça va résonner, puis là on va être appelé à revenir ici. Vous pouvez marcher au rythme qui vous semble juste. Parfois on commence par marcher à un rythme normal, puis tranquillement on ralentit pour sentir, parce qu'on passe du corps qui marche dans l'espace à « Oups, qu'est-ce que c'est un pas ?» Découvrir ça. OK, alors, merci. Bonne marche.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.